Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans le cadre d'Animalement Nôtre, humains et animaux aujourd'hui, en lien avec une actualité aiguë, parfois cruelle. La condition animale occupe aujourd'hui une place croissante dans le débat public et les relations entre les humains et les animaux connaissent aussi de profondes transformations. De nouvelles connaissances dans les sciences du vivant, des approches renouvelées dans les sciences humaines et sociales, une prise de conscience des citoyens des excès de l'industrie agroalimentaire, les alertes, voire les désastres écologiques. La Bibliothèque publique d'information vous propose deux journées de rencontres, débats, afin d'analyser et de mieux comprendre les rapports entre les humains et les animaux sur des plans qui couvre beaucoup de champs disciplinaires, puisque nous avons la chance d'avoir pu rassembler autour de nous philosophes, juristes, biologistes, anthropologues, historiens, et nous allons aussi nous intéresser à l'imaginaire de l'animal dans l'univers humain. Quel est le statut actuel de l'animal dans nos sociétés et en quoi éprouve-t-il notre humanité? Où en est-on des combats pour la cause animale? Peut-on rêver d'une nouvelle alliance entre humains et animaux? Ces débats, menés donc avec des chercheurs, des professionnels, des militants d'associations, seront ponctués par des intermèdes artistiques, des lectures et des projections. Ces rencontres vous sont proposées en collaboration avec la compagnie du Singe Debout et avec la revue Billebaude du Musée de la Chasse et de la Nature. Je tiens particulièrement à remercier l'équipe de la Bibliothèque publique d'information, le service de l'action culturelle et notamment Isabelle Bastien-Duplex et Jérémy Desjardins qui sont ici, mais également l'ensemble des intervenants qui vont se succéder aujourd'hui et qui auront l'occasion de débattre. Je laisse tout de suite la place à la conférence inaugurale par Madame Elisabeth de Fontenay, à qui je laisse la parole. Bon deux jours de débat.
Je vais l'avouer d'emblée et de manière quasi testamentaire. Je n'aime pas que sous prétexte de scientificité, l'on parle de l'animal humain. La quatrième blessure narcissique que l'éthologie a infligée à l'humanité, cette nouvelle atteinte au prétendu propre de l'homme, ne saurait suffire à sonner le glas de l'exception humaine. La théorie synthétique de l'évolution ne fait plus référence aux espèces animales et elle rend donc obsolète, dans la foulée, la mise à part de l'espèce humaine. Il n'y a désormais plus de ligne de partage, nette, susceptible de découper avec pertinence l'ensemble des vivants, mais seulement des lignes généalogiques qui rendent compte des degrés de parenté et des spéciations. On ne reconnaît plus, à l'intérieur du monde animal, que des différences d'intensité, c'est-à-dire des grades, des degrés, des nuances. C'est là un acquis scientifique irrécusable, bien qu'une grande partie de l'humanité s'obstine encore à le dénier furieusement, comme si la religion, la métaphysique, la morale, le sens commun avaient le moindre pouvoir de remettre en cause les recherches croisées des paléoanthropologues et des primatologues, les découvertes de la biologie moléculaire et celles de la génétique. Maintenant, peut-on, pour autant, méconnaître la réalité de cet accident épigénétique de l'évolution, en quoi a consisté l'émergence de la différence anthropologique? Il me semble capital de disjoindre deux interrogations hétérogènes, d'une part celle de l'origine de l'homme, de l'autre celle de la signification de l'humain. Il me semble en effet qu'avant d'induire que, chez les hommes, des intuitions et des comportements, par exemple éthiques, dérivent naturellement de l'évolution, et que les chimpanzés capables d'empathie et de réconciliation devraient constituer pour nous un modèle éthique et politique, encore faudrait-il s'accorder sur ce qu'on entend au juste par sens moral, expression ambiguë et lourde d'anthropomorphisme. Franz De Waal a fait paraître un livre au titre éloquent, Les bonobos, Dieu et nous, sous-titré « À la recherche de l'humanisme chez les primates ». C'est aller bien vite en besogne, me semble-t-il, que de statuer seulement à partir d'un vague consensus sur ce que serait un dénominateur commun baptisé humanisme, et qui dériverait naturellement et dans la continuité des chimpanzés aux humains, alors même que tout montre que l'évolution procède de façon discontinue, par bond. Aussi loin que nous conduisent les patients travaux des primatologues portant sur la communication avec les singes supérieurs, sur leur capacité de catégorisation, nous risquerions de sombrer dans une sorte de bêtise si nous nous obstinions à mettre en doute que depuis l'homo habilis, les humains expriment et communiquent autrement que les plus intelligents des animaux. Et ceci même si les existences animales restent irréductibles aux sciences du comportement, en ce qu'elles ont foncièrement à faire à ce que nous appelons le sens. C'est la double articulation en premier lieu qui permet de caractériser la singularité du langage humain. Et comme le reconnaissent eux-mêmes les scientifiques qui théorisent des travaux convergents de la biologie, de la psychologie expérimentale et de la neurophysiologie, sur cette structure profonde se greffe une capacité faisant défaut aux primates non humains, à savoir le langage déclaratif, la parole prise en vue de donner de l'information, et encore le langage ostensif par lequel on montre à autrui un objet, non pour l'obtenir, mais pour le donner à voir. C'est aussi le langage conversationnel qui implique l'intersubjectivité et bien au-delà de l'empathie, cette capacité de me représenter continuellement et intensément ce que se représente l'autre, de comprendre ses états mentaux en tant qu'ils diffèrent des miens et d'en tenir compte. Aristote avait montré que ce qui fait défaut aux animaux, c'est tout ce qui a trait à ce qu'on appelle la doxa, à la croyance, la persuasion, à l'adhésion, à la rhétorique, donc. S'ils usent d'un certain logos, d'une certaine capacité de raisonner, ils ne disposent pas de la parole, ce registre où logique et linguistique s'articulent pour constituer l'espace humain de la délibération et de la décision publique. En fait, c'est l'éthique et la rhétorique, plus que le rationnel, qui font la singularité humaine. En cela consiste, me semble-t-il, cette signification de l'humain que, pour des raisons historiques et politiques, je refuse d'abandonner à la liquidation naturaliste. Les sociétés humaines, par ailleurs, et c'est sans doute leur différence la plus décisive, ont cette caractéristique de se transformer suivant une évolution culturelle qui fonctionne sur un mode lamarckien de transmission de l'acquis, voire par révolution, et non seulement par l'effet de modification biologique. Chez l'homme, l'hérédité exogène, la transmission d'informations par des voies non génétiques rendues possibles par le langage, revêt autant d'importance, sinon plus, que ce qui est programmé par l'ADN. Nous détenons ainsi l'avantage unique parmi les vivants de relever de cette transmission massive de l'acquis, laquelle possède une relative autonomie. C'est pourquoi l'apparition du préceptif, de l'injonctif et de la plénitude de sens ne saurait s'expliquer par une simple dérivation. À quoi il faut ajouter ceci, alors que les primates ne peuvent modifier la structure des rapports propres à leur espèce, nous avons la capacité de réaliser une opération singulière qui consiste à se donner une représentation globale des principes d'organisation de la société, ce qui permet non seulement de vivre en société, mais de créer de la société pour vivre. Ce qui caractériserait donc aussi le surgissement de la différence humaine, c'est cette capacité de transformer la société. Pour rendre compte de la déviation, de la mutation brusque et imprévisible que représente l'émergence anthropologique, il faut donc effectuer un véritable changement de terrain, celui de l'ethnologie non réductible à l'éthologie, celui de la sociologie non réductible à la biologie, et celui d'une psychologie qui ne se restreindrait pas aux neurosciences. Et ceci, non pas parce qu'il y aurait quelque transcendance un fondement religieux ou métaphysique de l'homme, voire dans l'homme, au-dessus de l'homme, voire dans l'homme. Non. Ce qui invalide les divers réductionnistes naturalistes, ce qui invalide ce rabattement des fonctions sur les structures, c'est leur impuissance à rendre compte avec justesse de l'énigme épigénétique qu'est l'émergence de l'humain. Voilà donc la déclaration préalable que je tenais à faire. Ne pensez pas que je me sois éloignée du souci des animaux, mais il fallait que je donne des attendus aux réserves que je vais faire à l'encontre, non de la primatologie, mais d'un certain primatologisme, non à l'encontre de la morale, mais d'un certain éthicisme. Je donne pour titre à mon exposé « L'animal entre mystère et droit ». Je vais maintenant, dans un second temps, aborder la question, si j'ose dire, du mystère. Maintenant, je voudrais faire un détour et proposer une image susceptible de prendre en charge le mystère animal. Les animaux dorment et nous, nous veillons. Cette manière métaphorique de dire les différences permet d'associer continuité et discontinuité entre humanité et animalité. Les animaux dorment, c'est en ces termes qu'on peut exprimer la transcendance de leur existence, à savoir cette barrière spécifique qui nous sépare d'eux, barrière que l'éthologie fait varier, que les neurosciences effacent et qui se rappelle à nous dans l'expérience de lointaine proximité que nous avons avec nos chiens et nos chats. Quant à nous, les humains, nous veillons. Et c'est de notre insomnie que viennent la responsabilité et le droit. En parlant de mystère, je ne cours pas seulement le risque d'un emprunt au registre religieux, je prends la liberté de suspendre à un moment la prise en compte des savoirs zoologiques et éthologiques. Ma thèse étant que la façon la plus efficace de donner congé à la métaphysique et à la théologie du propre de l'homme qui ont d'âge en âge déconsidéré les animaux, ce n'est pas seulement de s'en tenir au savoir scientifique, c'est d'une part de se convertir à une écoute de la littérature et plus encore peut-être à un regard sur la peinture, et d'autre part de faire confiance à notre prérogative humaine d'établir des droits. Dans Le Peuple, dans son livre Le Peuple, Michelet insère un chapitre intitulé « Digression, instinct des animaux, réclamation pour eux », où il s'essaie à une méditation sur le sombre mystère de l'animal, sur le monde immense de rêves et de douleurs muettes. « Ne diriez-vous pas, écrit-il, des enfants dont une fée mauvaise empêcha le développement, qui n'ont pu débrouiller le premier songe du berceau, peut-être des âmes punies, humiliées, sur qui pèse une fatalité passagère. Triste enchantement, où l'être captif d'une forme imparfaite dépend de tout ce qui l'entoure comme une personne endormie. Mais, parce qu'il est comme endormi, l'animal a en récompense accès vers une sphère de rêve dont nous n'avons pas l'idée. Nous voyons, écrit encore Michelet, la face lumineuse du monde, lui, la face obscure, et qui sait si ce n'est pas la plus vaste des deux. Il ajoute, ces grands bœufs, eux-mêmes, si graves sous le chêne sombre, n'est-il aucune pensée dans leur longue rêverie ? Si je reste attachée à cette manière dont Michelet appréhende l'animal, comme la victime d'un mauvais sort ou comme un rêve, comme une représentation muette de l'immensité de l'infini, si je tiens à reconnaître ce que je dois à cette ontologie confuse et vieillotte, teintée de métempsychose, c'est d'abord parce qu'elle a été impitoyablement persécutée par l'Église, qui a été du reste relayée dans cette tâche inhumaine par la métaphysique, puis par la science expérimentale. Les hommes, écrivait Jacques Derrida, allant aussi loin qu'il est possible dans la déstabilisation de nos savoirs et de nos pouvoirs, les hommes seraient d'abord ces vivants qui se sont donné le mot pour parler d'une seule voix de l'animal et pour désigner en lui celui qui seul serait resté sans réponse, sans mot pour répondre. Cette phrase, Je ne l'entends pas comme un déni du trait spécifique de la différence anthropologique qu'est le langage articulé. Je l'entends d'abord comme une question. En tant qu'êtres humains, n'avons-nous pas commis une faute primordiale qui aurait été recouverte par le péché originel ? Une faute qui aurait privé de parole, qui aurait littéralement interloqué les animaux. C'est peut-être de notre fait d'occidentaux, juifs, grecs, chrétiens, obsédés de logos et de transcendance du verbe. S'il n'a pas eu assez de mots pour tous les vivants, c'est pourquoi, comme pouvait l'écrire Walter Benjamin, il appartient au langage de l'homme, et plus encore au langage de l'artiste, de traduire l'animalité que traverse un langage muet. Il s'agit bien là d'un mystère, expérience non du divin, mais de ce qui est à la fois proximité de la vie et séparation immémoriale entre les vivants. Il faut faire taire les savoirs pour prêter attention à la présence, je veux dire à la transcendance de chaque fois un animal. Seule la littérature, quand il s'agit du silence, de la solitude et de la souffrance des bêtes, trouve le pouvoir de chuchoter à l'oreille des hommes. Dans son livre « La grande barrière », Jean Giono raconte comment, entendant lors d'une promenade des gémissements dans un fourré, il s'était approché d'une hase qui venait d'être blessée à mort par des freux. La hase est la femelle du lièvre et les freux sont une espèce de corbeau. Je lis. À genoux, à côté d'elle, je caressais doucement l'épais pelage brûlant de fièvre. Il n'y avait qu'à donner de la pitié. C'était la seule chose à faire, de la pitié, tout un plein cœur de pitié, pour adoucir, pour dire à la bête, « Non, tu vois, tu n'es pas seule, quelqu'un souffre de ta souffrance. » Je caressais. La bête ne se plaignait plus. Et alors, regardant la hase dans les yeux, j'ai vu qu'elle ne se plaignait plus parce que j'étais pour elle plus terrible que les corbeaux. Ce n'était pas apaisement que j'avais porté de l'après de cette agonie, mais terreur, terreur si grande qu'il était désormais inutile de se plaindre, inutile d'appeler à l'aide. Il n'y avait plus qu'à mourir. J'étais l'homme et j'avais tué tout espoir. La bête mourait de peur sous ma pitié incomprise. Ma main qui caressait était plus cruelle que le bec des freux. Une barrière nous séparait. Cette grande barrière entre les humains et les autres espèces que réfute la théorie d'évolution, qu'a supprimée dans cette mesure la domestication, que peut parfois ébranler l'apprivoisement et que fait tomber la menaçante contagion interspécifique. Cette barrière, la tendre caresse du chasseur, n'a donc pas pu la soulever et l'écriture a pris en charge ce désespérant constat. L'extrême onction de la caresse humaine terrorisait la bête. Si la littérature permet de franchir cette frontière entre les espèces, c'est que le langage ne sert pas seulement à la connaissance, il a d'autres dimensions, les cris de reconnaissance, les gémissements chez les bêtes, les exclamations, les supplications, les revendications et la description chez les hommes. Sans métaphysique, sans savoir particulier, l'écrivain a ressenti immédiatement qu'il aggravait d'une angoisse innommable l'agonie du lièvre. Un autre texte de la littérature française porte à la fois lui aussi sur ce thème de l'empathie et de la séparation. Marguerite Duras, qui après avoir vu le film de Barbara Schroeder, le film que Barbara Schroeder avait consacré à une gorille et intitulé « Coco, le singe qui parle », a écrit ces lignes en renommant Coco Africa. Pourquoi, écrit-elle, lorsqu'Africa occupe l'écran, le remplit-elle de cette façon incomparable, définitive, à ce point que rien, aucune analyse, fût-elle la plus pénétrante, ne pourrait témoigner de la souveraineté de son image, de sa présence, de cette différence si proche d'avec nous, la plus proche de nous, sur l'autre rive du monde. Fin de citation. Ce texte, subtilement anthropomorphe, exprime à la fois de la gratitude et de la distance vis-à-vis de la primatologie. La différence si proche d'avec nous, dit-elle, pour évoquer la nostalgie que cause la proximité du lointain. C'est d'une désolation de grand singe, à la fois irréversible et consciente qu'il s'agit. Le philosophe romantique allemand Schelling parlait du masque de souffrance posé sur la face de la nature et sur le visage des animaux, de cette tristesse qui coupe la voix. Quand il se laisse inspirer par le regard animal, les yeux et les mains des peintres tracent sur leur toile une caresse à la fois inoffensive et persistante qui adoucit l'impeccabilité de la grande barrière. Il me semble que c'est la peinture qui, la première, nous aura affranchis de la capture abstraite des animaux à laquelle nous nous livrons au moyen des concepts et des mainmises de toutes sortes. Le bœuf écorché de Rembrandt, celui de Soutine, le lièvre de Durer, l'ours de Gilaillot, les chevaux de Géricault, le singe antiquaire de Watteau, la reine de Chardin, ce sont là certains des tableaux qui déjouent nos manœuvres d'appropriation. Il y a du reste un lien à la fois archéologique et généalogique entre la peinture et les animaux. La figuration des bêtes est, comme en témoignent Altamira, Lascaux et la grotte Chauvet, la figuration des animaux représente, sans aucun doute, le surgissement de l'humain dans l'histoire naturelle. Et par une sorte de vocation à répéter ce geste inaugural, des peintres ne cessent de recommencer ce commencement de leur art, ce moment auroral où l'on ne peut plus distinguer les deux registres incompatibles, l'apparition de l'Homo sapiens et la signification de l'humain. Cet acte de tracer des formes vivantes en mouvement, faisant renaître à chaque événement pictural l'intensité miraculeuse des premiers temps, en deçà de tout savoir. Je passe maintenant à une troisième partie de mon exposé, troisième et dernière partie de mon exposé. Cette strate que je viens d'évoquer, d'une relation primordiale aux animaux, tantôt lien rêveur à leur transcendance, tantôt énigmatique empathie, constitue un socle hors duquel toute pensée d'animal et toute action en sa faveur me semble se développer abstraitement, hors du sol de l'expérience vive. Mais il ne faudrait pas que cette exigence contemplative tourne à l'action de grâce et conduise à une mystique un peu psychotique ou à un oubli des sciences. Un oubli de cette condition animale infligée par quelques droits immémoriaux et disposés à sa guise des vivants non humains. Je retire le mot science que j'ai employé par erreur. C'est pourquoi, avant de conclure sur l'urgence d'en passer par une réflexion juridique et par une pratique accrue du droit, je voudrais en passer par un examen critique de ce mouvement de la philosophie analytique anglo-saxonne qui se donne pour l'éthique animale par excellence. Sachant tout ce que certaines bêtes doivent aux travaux de Peter Singer et de Tom Regan, je souhaite préciser le différend que j'ai avec ces auteurs en tant que philosophe dite continentale, c'est-à-dire en tant qu'héritière de la tradition métaphysique. Position qui implique de conduire une critique des fondements de la pensée morale occidentale, de la déconstruire afin qu'elle cesse de réserver le respect aux êtres humains et de traiter ou de laisser traiter les animaux, au pire comme des choses, au mieux comme des êtres seulement vivants. La déconstruction consiste à analyser les structures sédimentées, les articulations rigides du discours philosophique dans lesquelles nous baignons. Ces structures toutes pensées qui nous formatent par l'intermédiaire de la langue et que nous répétons sans savoir qui parle à travers nous. La déconstruction ne peut s'exercer que sur la tradition dans laquelle nous sommes insérés en tant que philosophe français et allemand. C'est la voie que je m'efforce de prendre. Il y a cependant une distinction fondamentale de l'éthique anglo-saxonne avec laquelle je ne peux pas ne pas être d'accord. Les animaux ne sont pas des agents moraux, puisque ne disposant ni de raison ni de volonté, ils n'ont pas la capacité de choisir. Mais, comme les enfants, les handicapés mentaux, et souvent les vieillards, on doit les considérer en tant que patients moraux, c'est-à-dire ne pas les exclure de la sphère de la justice. Maintenant, l'utilitarisme auquel se rallie Peter Singer dans son livre « La condition animale » consiste à déterminer le caractère juste ou injuste d'action à partir du caractère beau ou mauvais de leur résultat. Puisque c'est la seule prise en considération des intérêts qui décide de ce qui est juste, l'utilitarisme est un égalitarisme. Il exige une égalité de considération pour les intérêts de tous les êtres sensibles. Peter Singer pose ceci: si on fait un calcul général des plaisirs et des peines, on doit préférer la vie d'un animal intelligent à celle d'un enfant handicapé. Ce raisonnement s'appuie sur la catégorie de spécisme qui rassemble et stigmatise tous ceux qui passent l'espèce humaine au-dessus des autres espèces et dont la mentalité s'apparenterait au racisme et au machisme. Le spéciste apparaît comme celui qui ne prend pas en compte ou prend suffisamment en compte les intérêts des êtres qui ne font pas partie de son espèce, alors que l'antispéciste refuse de faire de la vie humaine quelque chose de sacré, de faire comme si la classe des personnes coïncidait avec celle des êtres humains. Faire coïncider exactement la limite du droit à la vie avec la frontière de notre propre espèce relève de l'illogisme, dit Singer. Sans doute, par ses propos scabreux, Singer invite-t-il non à traiter les handicapés comme des animaux, mais bien à traiter les animaux comme des handicapés. Et s'exerce-t-il à une argumentation dont la visée est en quelque sorte pédagogique? Mais ce refus de prendre en considération les différences entre les espèces et entre les animaux et les hommes nuit en même temps à la singularité humaine qu'on peut reconnaître sans la sacraliser. Cela nuit aussi, comme je viens de le dire, aux espèces et races animales dont la diversité nous est précieuse. L'utilitarisme ne traite pas seulement de façon égalitaire les humains et les animaux, il rend l'éthologie impossible en déniant les différences entre les espèces. Tout autre est l'approche du philosophe américain Tom Regan, auteur d'un livre, Le droit des animaux. Regan pense les animaux comme les sujets d'une vie. Il ne suffit pas de reconnaître leur sensibilité, il faut leur accorder des désirs, des croyances, leur attribuer un minimum de conscience de soi, la possibilité de se représenter l'avenir, ne serait-ce que sur le mode de l'attente. Ceux des animaux qui manifestent ces capacités, les mammifères les plus évolués, possèdent de ce fait une valeur inhérente. Ils sont des fins en soi qui ont des droits forts, incluant le droit à la vie. Pour Regan, l'animal est un individu et non une simple unité numérique faisant partie d'un lot, et pas seulement le membre d'une espèce. Cette thèse, avec laquelle je suis d'accord, n'est pas sans ressemblance avec l'approche phénoménologique, celle de Husserl et de Merleau-Ponty, qui ont reconnu en l'animal le sujet d'un monde et ont rendu possible un regard sur lui, qui soit compréhensif du sens et non pas seulement explicatif des comportements. Seulement, il en était sorti, du moins avant que ne paraisse le livre fondamental de Florence Burga, L'existence animale, il n'en était sorti aucun engagement concret envers les animaux. Selon Regan, la valeur inhérente de chaque individu, sujet d'une vie, implique un droit absolu à la vie, du moins pour des mammifères de plus d'un an. Pourtant, il faut bien voir que la position extrême qui consiste à faire rigoureusement dériver le droit absolu de n'être pas tué du principe selon lequel certains animaux sont des subjectivités plus ou moins conscientes, cette position aboutit, paradoxalement, à une annulation de la possibilité même d'établir des droits. On peut certes construire sur ce principe une théorie du droit qui consiste en l'abolition de toute exploitation, mais en aucun cas élaborer des droits au cas par cas. C'est pourquoi la question du welfare, du bien-être animal, est au cœur de ma critique de la dénonciation du spécisme qu'effectue l'utilitarisme de Singer et l'extrémisme éthique de Regan. Car au titre de l'égalité morale de tous les vivants sensibles, au titre des droits moraux. Les abolitionnistes, ces extrémistes de la moralité, partisans du tout ou rien, refusent la prise en charge réformiste du bien-être animal par les droits légaux qui tiennent compte de la graduation et de la diversité dans la complexité, qui tiennent compte du fait que certains êtres vivants sont construits avec une plus grande quantité d'informations génétiques ou qu'ils sont capables de traiter une plus grande quantité de données mémorielles. Ce résultat, cet état actuel de l'évolution, cette multiplicité des espèces et des races à laquelle les éthologistes consacrent leurs travaux, impose, me semble-t-il, une attribution de droits différents selon les espèces. Mais avant même qu'on évolue ces différences spécifiques, il y a un critère qui présente un caractère d'universalité et devrait faire l'objet de droits intangibles, c'est l'intégrité. Et je reprends ici les analyses de Catherine et de Raphaël Larère. L'intégrité, disent-ils, apporte l'idée d'une unité qui doit être saisie sur une longue durée, à la fois celle de l'individu et celle de l'espèce. Pour que la vie d'un individu soit saisie comme une unité cohérente, il faut bien entendu que cet individu ait conscience de ses états représentatifs et de ses désirs, et qu'il ne vive pas seulement dans l'instant. L'intégrité est ainsi ce moment où biologie et biographie se rejoignent dans l'histoire d'une vie. La vie de l'individu peut être saisie comme une unité cohérente s'il a une mémoire du passé et que ses actions sont orientées par un horizon d'attente. Le concept d'intégrité s'applique aux lignées, aux variétés, aux espèces et aux races, et bien sûr aux individus. Ce qui donne à comprendre que dans les élevages industrialisés, on impose aux bêtes une vie qui n'est pas celle que l'histoire évolutive a sélectionnée dans leur espèce. Ils n'ont plus d'autre histoire que celle dans laquelle on les a inscrits de force. Ils sont entièrement hétéronomes. Pourtant, le respect même de ce principe d'intégrité est considéré comme une diversion spéciste, suspecte, par les tenants de l'abolitionnisme. Ils confondent cette prise en compte vertueuse du bien-être fondée sur l'intégrité avec des pratiques industrielles indûment qualifiées d'éthique, qu'on peut qualifier de vicieuses, qui sont qualifiées de welfare, et qu'on peut qualifier de vicieuses en ce qu'elles sont mises au point par la zootechnique et les chaînes de décision économique qui mécanisent l'animal. Car bien entendu, ce que l'ingénierie génétique permet aux scientifiques et responsables de la filière viande, c'est tout simplement de réussir l'adaptation des animaux de rente aux conditions inhumaines qu'on leur impose. Il y a évidemment une tromperie scandaleuse dans ces prétendus programmes de bien-être animal. Un autre concept élaboré par les Larère, que le droit devrait prendre en compte et dont les abolitionnistes ne se préoccupent pas, obsédés qu'ils sont par le droit des animaux à la vie et à la libération, est celui de la sociabilité. L'animal confiné de l'élevage mécanisé n'a plus de rapport ni avec ses congénères, ni avec son éleveur, ce qui signifie la perte et des relations sociales naturelles, qu'elles soient hiérarchiques ou maternelles, et aussi la disparition des relations sociales traditionnelles qui avaient rendu possible la domestication. Or, le jusqu'au boutisme animalier faisant de la domestication l'origine de notre inhumanité envers les animaux. Et je reconnais que je ne suis pas toujours insensible à cet argument. Après tout, il suffit de penser à la castration. Donc, le jusqu'au baptisme humanier faisant de la domestication l'origine de notre inhumanité envers les animaux refuse de discuter des conditions de vie, de transport et de mort. En ce qu'il considère le réformisme comme un moyen d'entretenir l'exploitation, c'est pourquoi je critique ces éthiques animales absolutistes qui arrasent le champ des réformes, cet espace des hommes où peut se développer une plus grande exigence de justice et où peut s'amender le droit positif. Je conclurai rapidement sur l'urgence de légiférer. Et si je suis brève, c'est que Jean-Pierre Marguénot, à qui je dois tout en ce qui concerne ma réflexion de philosophe portant sur la question du droit, va prendre la parole. L'événement, ce qui a fait date de manière irréversible, c'est le déni de droit, c'est que le déni de droit, ce verrou qui scellait l'opposition juridique réputée fondamentale entre les personnes et les biens, ce verrou vient de sauter dans le droit civil français. Les animaux sont désormais définis non plus comme des biens meubles, mais comme des êtres vivants et sensibles. Cette décision n'est certes qu'un début, mais c'est l'amorce d'un tournant historique, parce qu'on commence à extraire les animaux de la seule catégorie des biens. On les définit plus seulement par leur valeur marchande et patrimoniale, mais aussi par leur valeur intrinsèque. Par cette reconnaissance de leur sensibilité, les animaux constituent désormais effectivement une catégorie intermédiaire entre les biens et les personnes. Bien sûr, toutes les bêtes ne sont pas concernées dans la mesure où le champ d'application des lois est beaucoup plus étroit que le règne animal. Seuls, en effet, les animaux qui ont un propriétaire peuvent, jusqu'à nouvel ordre, être défendus en justice. Toutefois, on peut espérer qu'un jour, les animaux sauvages, y compris ceux qui peuplent nos campagnes, pourront également bénéficier de protection. Ce que j'aurais tenté de montrer dans cet exposé, c'est qu'entre la littérature et la peinture qui font signe vers le mystère animal, et le droit qui inscrit dans l'espace public et donc dans les mœurs les articles législatifs et réglementaires protégeant le mieux possible les bêtes que nous mettons à notre disposition, il n'y a pas vraiment, du moins en ce qui me concerne, place pour ce qu'on appelle l'éthique. Merci.